France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Aujourd'hui, c'est un match sans Coupe du Monde, hein, et l'on n'imagine pas les conséquences. Dans la plupart des entreprises, on se fiche totalement des résultats sportifs. Non, ce qu'on attend, c'est le résultat des paris. Et oui, parce que tout le monde parie. À France Info, par exemple, la rédaction est totalement accro à cette activité. Alors, un jour sans match, les gens étaient un peu tendus. Bien le dire, il parie sur tout. Moi, par exemple, on m'a dit tu parles de Macron dans les informés, vas-y, je te mets 20 euros. Vas-y, on y va. Vas-y, n'hésite pas, fais pas ton chien, vas-y, on met 20 euros. Donc, en tout cas, il faut vraiment du foot rapidement. Ça sera demain à 16h. Donc, d'ici là, calmez-vous. Il reste un peu moins de 24 heures avant ça. Et c'est aussi à l'aise qu'une ministre du Travail en train de poser pour Paris Match qui se sont présentés. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Eric Scholl, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Courrier International, également Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. D'Attaque France, Guillaume Clossa, bonsoir.
Bonsoir.
Du think tank Europa Nova. Et Étienne Girard, bonsoir, de Marianne. Et ce soir, le Panthéon veut-il encore dire quelque chose? La dette explose, mais que reste-t-il à vendre? 80 km/h, c'est dimanche. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. À 4h30 du matin, dans le quartier européen de Bruxelles, il ne se passe pas grand-chose, faut bien le dire. Pourtant, ce vendredi, on a entendu une clameur avec cette phrase en français « Bon, qui va chercher les croissants ?» avant d'annoncer un accord des 28 sur la crise migratoire. Presque inattendu, faut bien le dire, cet accord, tant les mots avant le début de ce sommet européen paraissaient tragiques. L'union à la croisée des chemins, la fin, un avant, un après, la tragédie. Et puis, on sait pas trop. Parce qu'en fait, ce compromis propose la création de plateformes de débarquement, je cite, de migrants en dehors de l'Union européenne. Voilà. Avec pour objectif de dissuader les candidats à l'exil. Pour les migrants qui parviendraient à atteindre, le continent européen, qui seraient secourus, des centres contrôlés, c'est le terme, sont proposés que les États membres mettraient en place sur une base volontaire. Et les migrants éligibles à l'asile pourraient être répartis dans l'Union européenne, là aussi, sur une base volontaire. C'est assez flou, mais ça le fait pour le président de la République. On écoute Emmanuel Macron.
Toutes les solutions pensées à la va-vite, soit de repli national, soit de trahison de nos principes qui consistaient à repousser les uns ou les autres dans des pays tiers, ont été explicitement écartées. C'est pour moi une vraie satisfaction et une victoire.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin à Bruxelles. Alors, Éric Scholl, il y a une chose, on a un peu de mal à comprendre, c'est que ce soit Emmanuel Macron comme les populistes, par exemple, italiens, tout le monde a gagné, tout le monde estime avoir gagné. C'est là où on se dit que c'est pas forcément vrai, non?
C'est-à-dire, effectivement, Emmanuel Macron est sorti, il avait gagné. Les Italiens, et en particulier le Premier ministre, a tout de suite dit, bah voilà, c'est mes idées, enfin, c'est ce qu'on avait décidé. Et en fait, on a assisté à un sommet qui fait penser un peu à une sorte de fantôme de l'Europe. Ça rappelle ces sommets d'il y a 20 ans ou 30 ans, quand on se réunissait autour des quotas laitiers et qu'on discutait toute la nuit, mais on arrivait avec des solutions. Et là, en fait, il n'y a pas de solution. On est arrivé à quelque chose qui a évité de dire que c'est la crise, l'Europe est finie. Ça permet juste de gagner un petit peu de temps. Mais quand on regarde précisément les solutions, on s'aperçoit qu'il y a des guillemets, des parenthèses partout, un peu partout, oui. Et beaucoup de conditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait que reculer. Et à un moment ou à un autre, il va falloir réellement aborder les sujets. Ils n'ont pas été abordés. On est resté dans le flou le plus complet, de façon à pouvoir dire que chacun avait gagné.
Oui, on y trouvait, c'est un peu ça. On est vraiment resté dans le flou sur cet accord.
Oui, alors sur l'accueil des migrants, finalement, tout est question de mesures volontaires. Donc en fait, autant dire que ça ne bougera rien du tout. Par contre, quand même, il y a cette proposition des plateformes de désembarquement. Mais évidemment pas sur le sol européen, en particulier en Libye. Et là, il y a l'Organisation internationale des migrations qui fait partie des Nations Unies, qui tire la sonnette d'alarme en disant « attention, parce que il y a des énormes problèmes de sécurité, il y a des drames humains qui se produisent là-bas. » Et donc, il y a une inquiétude insurmontable liée à cette proposition. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, la conséquence de ça, ça va être un blocage des migrants pour venir en Europe et aucune solution véritable d'accueil. Une solution véritable d'accueil, à mon avis, alors là, je plaide aussi pour quelque chose qu'on a souvent mis en avant à TAC, ce serait par exemple d'avoir des vrais moyens financiers européens, à partir par exemple d'une taxe sur les transactions financières qui permettent d'accueillir dignement les migrants.
Guillaume Clossa, pour vous aujourd'hui, voilà cet accord. Alors, je précise juste à propos des centres d'accueil à l'extérieur de l'Union européenne. Ce soir, il y a le Maroc et l'Albanie qui le refusent. Déjà, ils refusent de construire un centre. Comment faire? Enfin, parce que là, la question, c'est très bien d'imaginer ce genre de solution, mais comment imaginer que...
Le Maroc, l'Albanie, alors je savais pas pour l'Albanie, mais ouais. La Tunisie aussi,
ah, d'accord,
donc,
voilà.
L'idée, c'était d'avoir en Afrique du Nord c'est compliqué, mais en vérité, le Liban aujourd'hui, avec 1,5 million de réfugiés, fait office d'eux, la Turquie, avec 1 ou 2 millions de réfugiés...
3 millions en Turquie.
3 millions, de réfugiés, pardon, ouais. Font office d'eux. En Afrique, plus au sud, il y a des pays qui... que le HR tente pour avoir ces plateformes. Mais le vrai sujet, c'est que il faut qu'on ait une vision très claire des enjeux en termes migratoires. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le Conseil européen a refusé de mettre en place un groupe de haut niveau qui puisse aboutir à une vision partagée des défis à court, moyen et long terme. Et tant qu'on n'a pas de vision partagée, on est en situation de réaction et donc en situation de crise politique. Pas de crise migratoire, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas véritablement.
C'est le mot qu'on entend de plus en plus, crise politique, véritablement.
Mais la crise politique, c'est quoi? C'est une crise sur les fondamentaux européens, parce que l'Europe a été fondée sur une idée d'ouverture et d'hospitalité. Et les Européens ont voulu mettre en place les conventions de Genève pour une raison très simple, c'est que des dizaines de millions d'Européens, d'abord dans l'histoire, l'Europe était, les peuples européens étaient les peuples qui étaient les plus mobiles et qui avaient besoin de l'hospitalité, et puis la guerre a mobilisé des dizaines de millions de gens qui ont dû se réfugier. Et donc là, ce qu'on remet en cause, c'est les fondamentaux de l'idée européenne. Et moi, je pense que le vrai débat devrait porter sur qu'est-ce que être européen signifie aujourd'hui et comment faire pour que les valeurs qu'on affiche dans toutes les déclarations soient pas seulement des principes, mais des réalités. Donc, il faut une vraie discussion politique de fond. Mais cette discussion politique de fond, elle ne peut s'appuyer que sur une compréhension partagée de la réalité.
Une chose qui paraît assez étonnante avec cette plateforme de débarquement, donc qui serait à l'extérieur donc de l'Union européenne, on a l'impression que ça a été écrit, mais sans consulter ces pays qui pourraient justement accueillir ces plateformes.
Ils sont consultés, mais on n'est pas encore. C'est bien pour ça qu'il y a des conditionnels. L'idée pour ces dirigeants européens, c'est de repousser au maximum l'endroit où on va devoir accepter
quoi, ces pays,
ou pas
en fait,
le droit d'asile.
C'est quoi ces pays?
Oui,
en fait,
même jusqu'au Niger. Enfin, si vous voulez, c'est l'idée, c'est que ça soit le plus loin en dehors, en tout cas, de l'Union européenne. Parce qu'en fait c'est la prise en compte de ce mouvement du refus des populations. On voit bien en France, il y a 56% des Français qui sont opposés aux migrants, et on voit qu'en fait on a des dirigeants qui suivent leurs opinions, qui sont très suivistes et qui n'ont pas beaucoup de courage.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Et l'attaque du quartier général de la force G5 Sahel était un attentat suicide. Elle s'est déroulée cet après-midi dans le centre du Mali, à Sévar. Les militaires parlent d'au moins 6 morts. C'est la première attaque visant cette force composée de soldats de 5 États africains pour lutter contre le djihadisme. Un jeune Lillois de 18 ans mis en examen après le meurtre d'une toxicomane. Il est poursuivi pour homicide volontaire et écroué. En mai dernier, la jeune femme avait été battue à mort. Selon France Bleu Nord, le suspect fait partie des 10 personnes interpellées mardi matin lors d'une vaste opération anti-drogue. La France n'ouvrira pas de centre fermé pour les migrants car elle n'est pas un pays de première arrivée. Confirmation d'Emmanuel Macron à l'issue du sommet européen de Bruxelles. Le président de la République en convient. L'accord trouvé dans la nuit entre les États européens ne règle en rien à lui seul la crise des réfugiés. L'objectif du passage à 80 km/h n'est pas d'emmerder tout le monde. Une phrase choc du Premier ministre Édouard Philippe. Aujourd'hui, alors que l'entrée en vigueur de sa mesure sera effective dans la nuit de samedi à dimanche, il la compare d'ailleurs à l'abaissement de 10 km/h sur le périphérique parisien. La mesure a permis, selon lui, une réduction des accidents de 18%. À Paris, dans le quartier du Marais, les passages piétons arc-en-ciel, de nouveau vandalisés, recouverts ce matin d'une inscription noire, dictature LGBT. Comme en milieu de semaine, après une première dégradation à caractère homophobe, la maire Anne Hidalgo a décidé de saisir le procureur de la République.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Nous parlons de cet accord trouvé au cœur de la nuit à 4h30 du matin par les 28 pays de l'Union européenne à propos de la crise migratoire. Étienne Girard, ce qui paraît étonnant, c'est ce qu'on a entendu ce soir. C'est Emmanuel Macron, qui était très fier de cet accord, qui nous dit il faut des centres en Europe, mais pas en France.
Oui, alors sa logique, elle est...
Et les Italiens sont pas contents d'ailleurs maintenant, de nouveau c'est reparti.
La logique d'Emmanuel Macron est implacable. La France n'est pas un pays d'arrivée des migrants, n'est pas un premier pays d'arrivée d'accord. des migrants, donc il n'y a aucune raison d'accueillir un centre fermé dans ce pays. Mais ça montre toute l'inanité de l'accord qui a été trouvé ce matin, c'est-à-dire que finalement tout le monde a eu son bout de phrase. Et donc tout le monde a gagné, tout le monde a eu raison, et finalement personne n'a gagné, personne n'a eu raison, et c'est surtout en effet le consensus européen qui a perdu ce matin.
Une chose, Guillaume Clossa, c'est quand même aussi cette phrase, l'accueil des migrants donc se fera sur la base du volontariat. Ils sont quand même assez peu les pays aujourd'hui en Europe à vouloir accueillir des migrants.
Assez peu et peut-être de moins en moins voilà. nombreux. Donc
sur le volontariat, on se demande bien quel pays ça pourrait...
Juste pour revenir oui. aux plateformes, même si la Tunisie, l'Albanie, etc. ont dit non, ça ne veut pas dire qu'à la fin ils diront non, mais ça veut dire qu'ils vont négocier avant de dire oui de manière très très claire. Et le vrai sujet, c'est d'avoir un nouveau partenariat avec les pays africains. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment concevoir ce partenariat avec l'Afrique. Et on sait en revanche que la population africaine va croître de manière extrêmement rapide sur les décennies qui viennent, et qu'on a du mal à stabiliser démocratiquement, socialement, économiquement ces pays. Et moi, je pense qu'il y a une vraie discussion qu'il faut avoir au niveau international, avec la Chine, avec les États-Unis, avec les pays qui sont africains qui s'en sortent, sur ce que pourrait être un plan Marshall pour l'Afrique, parce que le vrai sujet aussi est là.
Bien sûr.
Et à force de... Parce qu'aujourd'hui, on a une crise migratoire qui concerne quelques dizaines de milliers ou de personnes.
Ah bah bien sûr, oui, c'est
donc
peu,
ça nous
fait.
Évite de parler des vrais sujets.
Aurélie Trouvé, quand on parle de crise politique, pour vous, on est là, enfin, là, ce qui s'est passé depuis deux semaines, finalement, véritablement politique.
C'est bien de parler de crise politique et pas de crise migratoire. Il faut quand même rappeler que depuis 2015, qui a été le pic... De migration vers l'Europe, en fait, ça n'a fait que décroître, hein, les demandes d'asile en Europe.
Que par ailleurs, 95%.
Voilà, exactement. Voilà. Et que par ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est que, en fait, la plupart des migrants, et on peut parler de crise migratoire dans bien d'autres pays, c'est avant tout l'Asie, en fait, les pays asiatiques qui accueillent des migrants, je pense au Bangladesh avec les Rohingyas, puis vous en avez cité également, et puis par exemple, les pays du pourtour, enfin, autour de la Syrie, là, on peut parler de crise migratoire, mais en Europe, il faut rappeler que ces demandeurs d'asile, c'est 0,67% de la population, quand on compare le nombre de demandeurs d'asile depuis 2015 et la population européenne.
Une chose encore...
On est loin de l'invasion.
Oui, une chose encore, Éric Scholl. En France, donc il y a eu un impact politique, forcément. La droite trouve cet accord mauvais et la gauche mauvais également. Donc là, personne n'est satisfait véritablement de cet accord. Parce que...
Je ne suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons.
Non,
mais
bien sûr. Ben non. C'est ça.
Mais voilà, donc, en même temps qu'on trouve un accord mauvais, c'est souvent fait partie un peu du jeu politique. Donc je ne suis pas sûr que ça soit là-dessus qu'il faille se
Vous pensez
fixer.
Que ça peut avoir des conséquences là
on est non, à c'est dans les termes et dans l'utilisation, dans le langage politique, effectivement, quand on parle d'invasion, je ne sais plus quel est le terme avait utilisé le ministre de l'Intérieur.
Migratoire, mais, oui, c'est ça, invasion migratoire.
Mais il faut faire extrêmement attention, d'abord, regarder ce qui correspond ou pas à la réalité, là on est très loin de la réalité, et sur ces histoires de migration, on voit à quel point les perceptions sont très différentes des réalités. Et donc, aux politiques aussi d'être responsable dans ce domaine, parce que il y a quand même aussi un enjeu humanitaire de solidarité, et là on rejoint quand même la construction européenne qui s'est bâtie sur une valeur de solidarité, et là qui est complètement absente aujourd'hui.
Le terme employé, c'était submersion migratoire. Rapidement, Guillaume, oui.
Non mais dans le cadre de mes fonctions de direction de l'Union européenne de radio-télévision, avec toutes les télés, j'aurais posé une question. Vous avez combien de spécialistes des migrations? Et en fait, il y avait une journaliste à la radio suédoise qui était dans toute l'Europe spécialiste des migrations. Et donc, le sujet aussi, c'est que les médias doivent se doter, et les médias publics, doivent se doter de compétences pour pouvoir traiter correctement de ces sujets.
Une chose encore, avec vous, Étienne, les Républicains, d'ailleurs, qui ont réagi, là, ils se réunissent demain. À Menton, ils organisent un conseil national sur l'Europe, d'après vous, alors parce que c'est tout ça, voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de l'Europe, c'est possible qu'au sein des Républicains ils trouvent un accord, que demain justement il y a un autre accord, voilà aussi, et qu'ils trouvent un accord enfin.
Mais absolument, et je suis persuadé qu'on aura demain un accord chez les Républicains qui ressemblera comme deux gouttes d'eau à l'accord de ce matin, c'est-à-dire que tout le monde sera content, tout le monde aura eu son bout de phrase, et cet accord ne tranchera aucune question, et ne voudra finalement politiquement pas dire grand chose. Oui. Comme l'Europe l'est aujourd'hui, les Républicains sont totalement divisés sur la question européenne et sur grosso modo les mêmes lignes, c'est-à-dire d'un côté une aile libérale plutôt pro-européenne et de l'autre côté, une aile souverainiste, plutôt eurosceptique et extrêmement réticente à l'accueil de tout migrant en France.
Oui, c'est ça. Oui, on aura en tout cas l'occasion de le voir demain pour en parler, puisque Laurent Wauquiez doit prononcer un discours, et on nous a précisé que c'était bien avant 16h, bien sûr, avant le match de l'équipe de France contre l'Argentine. Allez, on va parler d'un sujet typiquement français, même s'il concerne bien sûr aussi l'Europe. Décidément, on est très européen ce soir. Si vous aimez rouler une cigarette à la bouche avec un petit chauffage d'appoint fonctionnant au gaz, vous allez vous souvenir du 1er juillet 2018, puisqu'en effet, dimanche, le paquet de cigarettes augmente, le prix du gaz pourrait également suivre ce chemin, et la vitesse à 80 km/h s'imposera sur les routes secondaires. C'est le débat qui alimente le plus les colères en ce moment, plus que la loi travail ou la réforme de la SNCF. Le passage de 90 à 80 km/h sur les 400 000 km de routes départementales et nationales ne passe définitivement pas. Ce sujet a déjà coûté 5 points de popularité à l'exécutif, mais Édouard Philippe assume. Il l'a encore redit en ces termes tout à fait délicats et élégants. L'objectif n'est pas d'emmerder tout le monde, hein, mais de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés. Grave, un argument qui ne passe pas, toujours. Avis d'automobiliste, vous allez entendre assez grognon.
C'est pas parce qu'on va mettre à 80 km/h sur les routes que les gens vont rouler moins vite. Donc le problème, c'est 80 km/h. Je pense qu'il y a des gens, avec le chaleur qui fait actuellement, les gens vont s'endormir au volant.
Moi, ce qui m'embête plus, c'est le problème des points, quoi. Voilà. Parce que va falloir allumer sur le compteur avec des voitures qui ont 6 vitesses. Donc écoutez, moi je suis agriculteur, je pense qu'après je vais rouler en tracteur. Parce que les tracteurs roulent à 40. Donc,
Et voilà, peut-être la solution. En tout cas, mais Aurélie Troué, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qui dure, qui est puissant, qui est. Il suffit qu'on se promène en France, qu'on voit la colère véritablement, beaucoup plus que même les autres luttent contre ce gouvernement. Pourquoi ça dure aussi longtemps?
Pourquoi ça dure aussi longtemps?
Il y a cette impression qu'on impose quelque chose.
Oui, mais ça prend du temps aussi que la prise de conscience de l'intérêt général prend du temps. Mais je pense que là, le gouvernement a raison. Il y a des centaines de vies humaines en jeu par an. C'est plusieurs milliers d'accidents graves estimés en moins par an. Donc oui, heureusement, l'État est aussi là à un moment donné pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de la sécurité. Et quand on dit « Ah, c'est un truc de technocrate parisien versus les ruraux », mais enfin, c'est des vies essentiellement dans les espaces ruraux qui vont être
sauvées.
Et moi, je voudrais juste faire parce que quand même, je peux pas m'empêcher quand même de critiquer un peu ce gouvernement Macron.
Bon, très bien, bah écoutez.
Je voudrais quand même faire un point, c'est que la sécurité routière, c'est pas qu'une question de vitesse, c'est notamment aussi une question d'entretien des routes.
Oui.
Or, ce gouvernement et tous les autres gouvernements qui l'ont précédé, ce sont des gouvernements qui étranglent de plus en plus les collectivités locales et qui ont, il y a plus de 10 ans, passé la compétence de gestion d'entretien des routes aux conseils généraux, qui sont étranglés budgétairement. Mmh. Et on sait qu'il y a des rapports qui montrent que depuis plusieurs années, il y a une chute de l'entretien des routes, de ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement pour entretenir ces routes qui sont devenues départementales, et c'est un vrai problème de sécurité publique. Donc ce gouvernement, certes, fait très bien sur la question de la vitesse, mais en même temps, par ces mesures d'austérité budgétaire, eh bien finalement, ils vont quelque part aggraver les problèmes d'accidents routiers par ce biais-là.
Parce que c'est pas entretenu, voilà, d'après vous. Alors on va continuer à en parler justement de ça, de ces 80 km/h polémiques. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Avec ce dernier hommage à Simone Veil, avant son entrée dimanche au Panthéon aux côtés de son époux, les anonymes peuvent se recueillir depuis ce matin et demain encore au mémorial de la Shoah à Paris, devant le cercueil de l'ancienne ministre, académicienne et survivante des camps de la mort. Le Capitole Gazette, le journal d'Annapolis, publie une édition hommage aux victimes de la fusillade. 5 morts hier dans cette ville du Maryland et 2 blessés. Les journalistes ont tenu, malgré ce drame, à publier leur édition du jour. Le tireur avait un différend avec ce quotidien, habitué aux tweets haineux, le meurtrier qui voulait tuer le plus de personnes possible. 3 bébés morts, 100 de disparus après le naufrage aujourd'hui d'une embarcation de migrants au large de la Libye. Des rescapés le confirment, ces 120 passagers, en majorité africains, étaient à bord d'un canot pneumatique à 6 km des côtes libyennes. Le Rhône est placé en vigilance orange canicule. Météo France attend pour ce week-end des températures voisines des 17 degrés la nuit en région lyonnaise. Le mercure pourra atteindre les 34 degrés en journée, jusqu'à 37 degrés dans certaines régions ces prochaines 48 heures. Et puis 1 million de voyageurs attendus dans les gares vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet du monde. Alors que la CGT et Sudrail appellent toujours les cheminots à faire grève contre la réforme ferroviaire, la direction constate que cette fréquentation de voyageurs est en hausse par rapport à l'an dernier, à la même époque.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on en parle depuis le 6 janvier. Et ça y est, c'est acté à partir de dimanche. Ça sera 80 km/h pour tout le monde sur les routes nationales et départementales. Alors il y a une chose quand même qui est intéressante, cette colère, je trouve, Éric Scholz, c'est ce sentiment, en effet, qu'on impose quelque chose depuis Paris. Parce que quand on réfléchit, les mesures gouvernementales, elles sont toutes imposées depuis Paris. Pourquoi celle-ci, à votre avis, paraît plus injuste finalement que les autres?
Parce que effectivement, on reproche, par exemple, qu'il n'y ait pas eu plus de concertation, oui, peut-être avec les départements, que les départements, on aurait pu faire des tests, etc. Bon, moi, sur le fond, depuis le début, oui, je soutiens cette mesure, je continue à soutenir. Peut-être qu'il aurait pu avoir une concertation plus poussée, mais maintenant, on sait aussi qu'on a affaire à des lobbies, qu'on entend beaucoup. Que ça fait maintenant plusieurs mois, l'annonce de cette mesure a été faite début janvier. Oui. Ça fait depuis le mois de juillet l'année dernière que Édouard Philippe y réfléchit. Il savait et il le sait qu'il serait impopulaire, que ce n'est pas une mesure populaire, mais c'est vrai qu'il y a parfois des mesures qui ne doivent pas être forcées. Un gouvernement ne doit pas forcément faire des choses populaires. Quand il s'agit de gagner des vies, et c'est ça l'enjeu. Lorsqu'il a pris cette décision, on avait des chiffres de la mortalité de la routière qui étaient en augmentation. Mmh. C'était reparti à la hausse. On sait depuis plusieurs années, les études l'ont montré, que la baisse à 80 km/h peut avoir des bons résultats. Eh bien, faisons-le. Et on verra effectivement dans 2 ans, ça doit être mesuré d'ici 2 ans, on fera une évaluation, un premier bilan, mais si on peut gagner, c'est un enjeu capital. Oui, comme l'avait fait Jacques Chirac
dans certains coins de France,
il y a une dizaine d'années, lorsqu'il avait installé les radars, rappelez-vous, c'était tout à fait impopulaire.
Dans certains coins de France, il y a ce sentiment d'être de nouveau puni, de nouveau, voilà, ça va être pour nous, on va encore payer, voilà, c'est ça aussi. Guillaume Clossin.
Non, mais il ne faut pas exagérer.
Je pense que c'est la liberté qui est en jeu.
C'est la liberté de ronchonner, et les Français ont un art qui est celui de critiquer, en particulier celui de critiquer les politiques.
Parce qu'il y a des coins où, sans voiture, on ne peut pas se déplacer.
Certes, mais que ce soit à 80 ou à 90 km/h, ça ne change pas grand-chose. Mmh. Et dans beaucoup de pays européens, la limite, elle est à 80. Donc il faut aussi arrêter, et si on commence à voir ses voisins, on verra que... Et puis par ailleurs, ça a un mérite, c'est-à-dire que même ceux qui ronchonnent, ils vont réfléchir à leur manière de conduire, parce que finalement, quand on baisse la vitesse, tout le monde doit se poser des questions et se réadapter. Et c'est bien, il y a plus on va vite, plus on consomme d'énergie. Les gens veulent, et la France est un pays qui souhaite être un pays du développement durable. Donc il y a un moment où il faut réconcilier ses propres contradictions. C'est un sujet citoyen.
Bien sûr, alors plein de paroles de bon sens, Ken Girard, mais on a compris que rapidement, ça devenait un sujet politique au sein même du gouvernement. On a vu Gérard Collomb quand même dire Joker, moi je suis contre. Emmanuel Macron lui-même n'est pas très chaud pour cette histoire. On sent que ça a été vraiment quelque chose qui a été accouché dans la douleur.
Oui, parce que cette mesure, au départ, c'est une mesure voulue par Édouard Philippe, essentiellement, qui a voulu en faire, toute proportion gardée, son abolition de la peine de mort à lui. C'est-à-dire une mesure pas populaire à l'époque où elle est décidée, mais prise en raison de l'intérêt général. Voilà, il a voulu se donner une image d'homme d'État, en quelque sorte, en prenant cette décision-là. Emmanuel Macron n'était pas chaud, effectivement, mais il lui a dit quitus. Mais rappelez-vous, Emmanuel Macron a dit on va le faire, mais si ça ne marche pas, on reviendra dessus dans 2 ans. Ouais. De la même façon, Gérard Collomb, très fin politique, a tout de suite perçu qu'il y avait un espace politique à prendre dans cette affaire-là. Pendant des années, à Lyon, il a joué l'anti-parisien et il a joué sur la corde de l'anti-parisianisme. Voilà, il a bien vu que on avait touché dans les territoires une corde assez sensible, et donc il s'est engouffré dans cette brèche. C'est pour ça qu'il dit Joker et qu'il dit moi non plus.
Oui, moi non plus.
Ça m'attire pas tellement ces 80 km/h au lieu de 90. Très politique.
Aurélie Trouille, juste pour terminer, c'est vrai qu'à un moment, ça correspondait aussi au début de l'année où il y avait un problème entre les territoires et le gouvernement. Et tout ça s'est mélangé aussi entre les fermetures des classes, les 80 km/h, tout ça. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc finalement, ça reste cette grogne qui dure depuis maintenant un an.
Oui, je pense qu'il y a aussi, je dirais, c'est un euphémisme, un problème de relation, et voire des difficultés de plus en plus importantes pour les élus ruraux notamment. Et je rappelle quand même que dans le programme CAP 2022 du gouvernement, il y a moins 10 milliards pour les collectivités locales prévues sur 5 ans. C'est énorme. Évidemment, les premières communes qui seront en difficulté, ce sont les communes rurales, parce que ce sont celles qui ont les services publics les plus lourds,
parce que
les plus éloignées, où il y a le plus de besoins, où on ferme effectivement des matériaux maternité, on ferme tout un tas de services publics de base. Et oui, il y a aussi un ressentiment de plus en plus important de ces petites communes rurales, de ces populations rurales vis-à-vis de ce gouvernement, avec cette impression qu'ils sont délaissés, mais en partie à juste titre. Oui. Alors évidemment, tout ça se mêle. Alors, la question de la vitesse, je pense, ils ont le courage politique, s'ils le font, voilà, ils ont, enfin, s'ils vont le faire, donc ils ont le courage politique de le faire. Après, c'est vrai que plus largement, il y a une colère du monde rural qui, à mon avis, est justifiée actuellement.
Allez, dans un instant, on parlera aussi d'une autre colère et d'une chose qui est très très importante aussi. C'est la dette, vous allez vite comprendre pourquoi. Et on parlera bien sûr de l'hommage à Simone Veil au Panthéon. Ce sera dimanche. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Nicolas de Staël en Provence, une exposition à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence avec France Info. De juillet 1953 à octobre 1954, Nicolas de Staël peint la Provence, une nouvelle source d'inspiration. À travers 71 peintures et 26 dessins, l'exposition revient sur cette période charnière pour l'artiste, à la découverte de la lumière du midi et à l'épreuve de la solitude. Nicolas de Staël en Provence, à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, jusqu'au 23 septembre, avec France Info.
France Info à Amiens, 105.5.
Et toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'appli mobile France Info.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
C'est encore un soleil généreux qui va irradier le pays demain dans un ciel quasiment tout bleu. En tout début de journée, près des plages du Golfe du Lion et plus localement sur les côtes de la Manche, des nuages bas retarderont temporairement l'arrivée du soleil, mais ces grisailles seront vite balayées. Le ciel sera un peu plus variable en Basse-Normandie et en Bretagne, mais les éclaircies resteront belles et prédominantes. Des paquets nuageux plus menaçants peuvent tout de même apporter des averses l'après-midi et même quelques orages. Dans ces conditions ensoleillées, les thermomètres vont encore bien chauffer et on dépassera le plus souvent la barre des 30 degrés. Prévoyez 27 degrés à Montpellier et à Brest, mais 31 degrés à Lille, Abbeville et Toulon, 33 degrés pour Nantes, Paris, Toulouse, Nîmes ou encore Mulhouse et 34 degrés à Lyon et à Tours. C'est à Bordeaux qui fera le plus chaud avec jusqu'à 36 degrés. En revanche, en cours de soirée et nuit suivante, une dégradation orageuse va aborder la façade atlantique.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Journée de relâche aujourd'hui au Mondial de foot, en attendant demain les premiers huitièmes de finale et bien sûr France-Argentine à partir de 16h à Kazan. Place au match à élimination directe, les deux équipes s'affrontent pour la troisième fois seulement en Coupe du Monde. Mais en 11 confrontations au total, les Bleus ne l'ont emporté qu'à deux reprises face aux Argentins. Benjamin Mendy, l'arrière-gauche remplaçant tricolore, est indisponible contrairement à Lucas Hernandez. Les Argentins qui parlent sans cesse avec l'arbitre et provoque parfois. Alors, Didier Deschamps a-t-il préparé ses joueurs? Question posée cet après-midi au sélectionneur national.
J'ai peu de joueurs qui comprennent l'espagnol, donc c'est parfait. Mais c'est dans la mentalité argentine aussi, ils ont ce tempérament. C'est les équipes sud-américaines, évidemment avec un soutien populaire qui est important, donc qui les galvanise. Voilà, c'est des combattants, mais je pense pas et j'envisage pas qu'il puisse se passer des choses qui soient pas acceptables sur le terrain. Après, il y a des duels, il peut avoir des accrochages, voilà, mais ça reste le terrain. Mais c'est un type de football qu'on a déjà joué et qui est spécifique.
Didier Deschamps, conférence de presse cet après-midi. Premier épisode caniculaire de l'été, le département du Rhône et plus particulièrement l'agglomération lyonnaise ont été placés en vigilance orange en raison d'un pic de chaleur attendu ce week-end et encore plus en début de semaine prochaine. La préfecture du Rhône active le niveau 3 alerte canicule qui permet de prendre en charge les personnes à risque, principalement les personnes âgées. La France n'ouvrira pas de centre d'accueil contrôlé pour les migrants qui débarquent en Europe. Déclaration de Emmanuel Macron au lendemain de l'accord européen signé la nuit dernière à Bruxelles et qui prévoit de créer ce type de centre en Europe. La France n'est pas un pays de première arrivée, précise le chef de l'État. Quant à Médecins sans frontières, il fustige cet accord, accusant les pays de l'Union européenne de s'être mis d'accord sur le blocage des personnes aux portes de l'Europe. 10 châteaux viticoles appartenant à un groupe chinois saisis dans le Bordelais. La police judiciaire soupçonne des infractions dans les montages financiers qui ont permis à leurs propriétaires, un groupe présent dans de nombreux secteurs économiques, eh bien de les acquérir. La chancellerie propose de nommer François Molins au poste de procureur général près la Cour de cassation. Le procureur de Paris, visage de l'antiterrorisme français, succéderait ainsi à Jean-Claude Marin. Et puis le Canada qui passe à l'offensive. Les autorités d'Ottawa annoncent qu'elles vont taxer notamment le whisky, le ketchup et le jus d'orange américain pour protester contre les droits de douane imposés par l'administration Trump sur l'acier et l'aluminium venus du Canada. Il est 20h33, les informés, la suite.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils explorent avec passion les grottes de l'océan de l'actualité. Aurions-nous besoin de vacances au bord de mer, peut-être? Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Eric Scholl, directeur de Courrier International, également Aurélie Trouvé d'Attaque France, Guillaume Clossat du think tank Europa Nova et Étienne Girard de Marianne. Quand on applique la réalité quotidienne aux finances de la France, ça donne des choses étonnantes. Allô, monsieur Bruno Le Maire, c'est votre banquier, ça va? Oh, bah, la petite a une rougeole, vous savez ce que c'est. Enfin, bref. Vous savez que vous avez une dette de 2255,3 milliards d'euros? Non mais comment vous comptez combler tout ça? À une cagnotte litchi? Bon écoutez, on va se rappeler hein, et puis on verra ensuite. Parce que la dette de la France a augmenté et représente 97,6% du produit intérieur brut. Cette dette de l'ensemble de l'administration publique est supérieure à ce stade, hein, à l'objectif qui s'était fixé le gouvernement pour l'année 2018, à savoir 96,4%. La publication de ces chiffres intervient deux jours après la sévère mise en garde de la Cour des comptes qui a appelé le gouvernement à des mesures, je cite, fortes, pour améliorer l'état des finances publiques françaises. Petit exemple avec le président de la Cour des comptes, Didier Migaud.
Très souvent, nos contrôles, nos travaux d'évaluation constatent qu'il y a un décalage, un fossé entre ce niveau de dépenses publiques et les résultats de l'action publique. Très souvent, nous sommes sur le podium s'agissant de la dépense, s'agissant des résultats, nous sommes rarement parmi les meilleurs.
Ah, Didier Migaud hier sur France Inter. Alors, Eric Scholl sort rentré dans le côté technique. Quand on voit ce chiffre quand même, 97,6%, du PIB, on se dit, ça semble tellement surréaliste, 2250 milliards, c'est inquiétant,
non?
Je
vous dis un autre chiffre, je vous donne 33 600 euros, c'est rapporté par habitant.
Voilà, on donc en effet, donc 33 000 déjà euros, oui. Donc c'est assez impressionnant, c'est inquiétant parce qu'on se dit, mais ça peut aller jusqu'où, comme ça?
Ben, c'est-à-dire que c'est effectivement inquiétant, et surtout la progression est inquiétante, parce qu'on avait quand même entamé un repli. On était monté pratiquement à 99%, et puis tout d'un coup, là, ça repart à la hausse. Ça veut dire que ce qu'on peut interroger, c'est la stratégie de désentêtement de l'État. On voit qu'elle est inefficace, qu'elle ne fonctionne pas, qu'on nous raconte un peu des sornettes, ou qu'il n'y a pas de stratégie réelle d'assainissement des finances
publiques.
Concrètement,
ça voudrait dire quoi, désendetter l'État? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des, par exemple, c'est des économies sur les administrations, sur les conseils généraux, c'est ça, par exemple, quand on dit désendetter l'État?
Ça peut être deux choses. Ça peut être dépenser moins.
D'accord.
On peut passer par les impôts. Et on sait que le niveau des impôts est très élevé, ou ça peut être effectivement de dépenser moins. Mais si vous voulez, on peut toujours se dire on dépense plus, mais c'est quand même de l'argent que vous endettez, et ça va peser évidemment sur les générations futures. Et puis ça pèse aujourd'hui directement sur le budget, parce que il faut rembourser les emprunts chaque année, qui est quasiment soit notre premier budget, soit notre deuxième budget selon les années.
Et juste une chose pour rester dans le côté pédagogique, pourquoi pourquoi finalement on en parle peu de cette dette? Parce qu'on a l'impression que pour les Français, ah, voilà, là on en parle
pas,
ce soir,
mais parce que c'est pas un problème. Excusez-moi d'avoir le principe. Le principal problème aujourd'hui en économie, c'est la dette des entreprises privées, oui. De certaines grandes entreprises privées dont les économistes s'inquiètent, et on pense même que ça peut être un facteur de future crise financière. Je pense par exemple à une entreprise, l'entreprise de Drahi, la Altice, qui a SFR, qui a sa dette, c'est l'équivalent de la dette de la SNCF, 50 milliards d'euros. Hein. Il y a des entreprises, des grandes entreprises publiques qui s'endettent de plus en plus avec des actifs pourris. Enfin, donc ça, c'est un premier point, ouais. Vraiment, pour le coup, je pense sérieux d'inquiétude. Deuxièmement, en fait, fait, on s'est enrichi en s'endettant ces derniers temps parce que les taux d'intérêt réels sont négatifs. Troisièmement, je dirais qu'un bon État, c'est un État qui s'endette, justement, parce qu'il investit sur l'avenir, parce que, eh bien, il pense aux générations suivantes. Quand on construit un hôpital et qu'on s'endette, eh bien, c'est pour plusieurs dizaines d'années. Quand on investit dans la rénovation énergétique des bâtiments, c'est pour la survie de l'humanité. Donc, il est important de s'endetter. Puis, pour finir, je dirais que l'important, en tout cas, évidemment, pour pas non plus, je sais pas, pour laisser filer complètement la dette.
Alors vous arrêtez où à 1000%?
Par exemple, le Japon est à 250% de dette dans le PIB, et c'est pas un problème pour le Japon.
Vous savez
pourquoi?
Voilà,
parce que la dette, elle ne dépend pas des marchés financiers comme chez nous, et c'est ça le problème. Elle dépend de l'épargne des Japonais. Et du coup, elle peut avoir une dette sereinement.
Justement, voilà. Éric Scholl, s'endetter finalement, ça peut être bien pour les générations futures. Tout à l'heure, vous nous disiez, non, au contraire, on va tous payer à un moment. Donc,
Parce qu'il y a un niveau d'endettement qui est là. Normalement, on a un taux d'endettement qui est limité à 60% par les critères Maastricht. La plupart des pays ont réussi à réduire, en Union européenne, dans la zone euro, ont réduit leur endettement ces dernières années. Et la France, non. Et au contraire, on fait partie, on est plutôt en queue de peloton, on a plutôt augmenté. Et je crois pas qu'on a augmenté cet endettement, pas forcément nécessairement pour investir, comme vous le disiez, dans des grands projets. On a augmenté cet endettement parce qu'il fallait couvrir nos dépenses.
Alors Guillaume Clossat, ça veut dire quoi concrètement sur le quotidien des Français? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va trouver de l'argent, faut trouver de l'argent partout pour rembourser cette dette. À un moment, chacun, quand on a une dette, il faut la rembourser, normalement.
Il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente les impôts, soit on ne fait pas les baisses d'impôts qu'on a prévues. Mais il y a quand même un sujet qu'a souligné Didier Migaud qui est important. Il a dit, mais le problème, c'est qu'il y a de l'argent dépensé, mais il n'y a pas de résultat derrière.
Ce que dit la Cour des comptes, en effet.
Oui, mais c'est ce que dit la Cour des comptes, et c'est une question que beaucoup de services publics et beaucoup d'États sont posés. C'est l'impact de la dépense publique. C'est-à-dire qu'on peut dépenser beaucoup, mais il faut avoir un très bon impact. Et cet impact, c'est-à-dire la contribution à la société, elle doit être en termes démocratiques, culturels, sanitaires, sociaux, etc. Et le sujet aujourd'hui, c'est qu'on continue à investir, mais qu'on n'a pas l'impact attendu. Et ça, c'est un vrai problème. Je vais vous donner l'exemple des hôpitaux. On peut garder des hôpitaux de manière délocalisée dans les régions. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que on peut avoir de très bons hôpitaux avec des moyens complètement différents. En Chine, ils ont des hôpitaux de proximité de qualité qu'ils ont montés avec des nouvelles technologies qui permettent de faire des radios beaucoup moins chères. Ouais. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir parce que tous les outils sont en train de se transformer avec l'intelligence artificielle, les révolutions industrielles, etc. Et cette révolution, on ne l'a pas intégrée dans la réforme de l'État.
Alors, Aurélie Trouvé, pour vous, faire des économies, parce qu'en fait, c'est ça, trouver de l'argent, tout le monde fait des économies en ce moment, c'est ce qu'on dit. C'est encore possible, donc.
Prenons l'exemple de l'Allemagne, effectivement, qui fait des sacrées économies, qui se désendette. Où en est l'Allemagne aujourd'hui? On s'inquiète énormément de l'état des équipements allemands, des bâtiments, qui sont dans un état déplorable. Et même l'État allemand commence à le reconnaître. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien de se désendetter, d'arriver à ce point-là? Et deuxième point qui me semble important aussi, c'est que en fait, le problème n'est pas tant le niveau des dépenses. Le niveau des dépenses dans le PIB, dans le produit intérieur brut, depuis 10-15 ans en France, est quasiment stable. Par contre, il y a un vrai problème de baisse des recettes publiques à travers les niches fiscales. Et puis, il y a quand même un élément à souligner, c'est que si on avait une réelle politique de lutte contre l'évasion fiscale, c'est en gros l'évasion fiscale 60 à 80 milliards d'euros par an qui manque aux recettes de l'État. Eh bien, il n'y aurait pas de déficit public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un déficit public égal à l'évasion fiscale en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment lutter contre la dette, ce que par ailleurs je...
Est-ce que c'est aussi simple que ça, quand même?
Est discutable. On a d'autres moyens que de mettre en l'air les services publics et de s'attaquer aux droits humains fondamentaux. On peut agir sur les recettes.
Pardon.
Non, Guillaume, voilà. Guillaume, s'il vous plaît, on va juste y revenir dans un instant. Parce que vous savez, ici, on a des petites précisions. On est très conservateurs. L'info à 20h40, c'est Van Nilom.
L'Assemblée de Corse vote à l'unanimité une motion pour un accueil efficace des migrants sur l'île. Elle a été soumise aux élus cet après-midi par le maire de Bonifacio et leader du groupe La République En Marche. Emmanuel Macron précisait dans l'après-midi que la France n'ouvrirait pas de centre d'accueil après le sommet de Bruxelles. Plus de 120 000 personnes déplacées dans le sud-ouest syrien. Les chiffres sont avancés par l'Office syrien des droits de l'homme. Ces hommes, femmes et enfants sont contraints à l'exode depuis le déclenchement d'une offensive ces derniers jours des forces du régime régime de Damas dans cette région de la Syrie. Les deux gérants d'un coffee shop mis en examen à Paris, deux associés de la boutique de la rue d'Aboukir, poursuivis pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Un responsable de l'établissement de la rue Amelot, lui, est déféré au parquet. Les perquisitions ont permis de découvrir des produits à base de cannabis dépassant les taux autorisés. Le déferrement des deux suspects du mystérieux groupe AZF, un homme et une femme, devraient être mis en examen en 2003 et 2004. Ils auraient menacé de faire exploser des bombes sur les voies ferrées. Ils ont été interpellés après cette longue et minutieuse enquête. Et puis la vaccination, l'échographie ou encore le vélo, quelques-uns des sujets cet après-midi pour les candidats au brevet des collèges, l'épreuve de sciences. 800 000 collégiens attendent maintenant la réponse et les résultats au plus tard le 11 juillet.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous le savez, en ce moment, pour l'exécutif, il y a un petit avis de tempête. Il se passe des choses entre des piscines, des vaisselles, des vidéos sur Internet. Et puis, il y a un chiffre, 97,6% du PIB. C'est le montant de la dette. Ça semble totalement surréaliste, c'est 33 000 euros par habitant. Voilà ce que vous devez, ce qu'on doit aujourd'hui à la dette. Et c'est vrai que Étienne Girard, ça commence à devenir un peu compliqué économiquement. Surtout, il y a autre chose dans le rapport de la Cour des comptes, c'est il s'inquiète du financement de deux réformes emblématiques d'Emmanuel Macron. C'est la fin de la taxe d'habitation. On ne sait pas comment ça pourrait être financé. Et surtout de la plus grosse partie, c'est-à-dire de la reprise de la dette SNCF, qui là, on ne sait pas, qui pourrait nous faire sortir donc du fameux critère des 3%.
Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a même qu'une. Puisqu'Emmanuel Macron a promis qu'il n'augmenterait pas les impôts durant le quinquennat, il ne reste qu'une chose à faire, c'est baisser les dépenses publiques. Donc on est sûr que d'ici à la fin du quinquennat, pour financer notamment ces deux réformes, on aura une baisse d'un service public ou de plusieurs, voire de
un nombre de fonctionnaires.
Voilà, voire de plusieurs. Il y a plusieurs ministères qui seront impactés. Donc évidemment, ça pose question. Mais sur la dette, la question qu'il faut se poser, c'est à qui elle appartient en réalité. Parce que c'est 33 000 euros à rembourser par personne. Ça a remboursé à des banques étrangères, en grande partie, à des compagnies d'assurance étrangères, à des fonds d'investissement étrangers. Donc, en fait, on organise un nouveau transfert de richesse de nos habitants vers les plus aisés des ressortissants étrangers. C'est quelque chose qui devrait nous interroger. On est sans doute obligé de rembourser cette dette.
C'est le but.
Un jour, mais cette dette, elle a été mal structurée, puisqu'au Japon, vous le rappeliez, elle appartient aux habitants du pays. Ouais. Et c'est toute la différence.
Éric Scholl,
Elle a été mal structurée de trois choses. D'une part, effectivement, on a bénéficié des taux d'intérêt qui sont bas. Si jamais ils devaient se relever, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Deuxièmement, aujourd'hui, quand on regarde le montant des intérêt à rembourser, la charge de la dette, c'est quasiment équivalent au ministère, au budget de l'éducation nationale. Donc, il faut quand même se rendre compte, c'est pas un chiffre totalement abstrait. Chaque année, on doit rembourser l'équivalent du budget pour l'éducation nationale à nos créanciers.
Donc, ça nous rend fragile ou pas, ça, finalement, d'avoir une dette aussi forte?
Bien sûr, mais écoutez, prenez par exemple, quand on parle de l'Italie, on sait très bien qu'un des points de faiblesse de l'économie italienne, c'est son surendettement. Et en Italie, qui est un des pays, qui est peut-être d'ailleurs le pays record, on est à 130% d'endettement du PIB. Et c'est évidemment une faiblesse. Non, on ne peut pas dire qu'on soit très fort avec quasiment 100% d'endettement du PIB, ça c'est sûr et certain.
Guillaume Clossin, vous vouliez réagir? Oui.
Non, mais moi je pense que le vrai sujet, c'est en effet investir sur des sujets qui nous permettent de dégager de la croissance à long terme. Et donc il faut investir dans l'éducation, ça c'est important. Ce qui a été fait notamment dans les petites classes, ça produit des résultats, mais il faut le continuer. Il faut investir dans la R&D, et il faut investir dans la vraie transformation des services publics avec une vraie vision de transformation. C'est-à-dire qu'il faut inventer les services publics du 21e siècle.
Mais Guillaume, vous savez ce qu'on vous dit quand on dit transformation? En gros, ça veut dire suppression d'emplois aussi. Enfin, non, c'est comme ça qu'on peut l'imaginer.
Mais si on fait si on ne fait que supprimer des emplois sans avoir de vision,
bien sûr, ah oui,
de l'utilité sociale des services publics, eh ben c'est tout perdu. Si, en revanche, on sait où on va, on sait l'impact sociétal qu'on veut avoir pour les gens et qu'on mène de vrais plans de transformation, ça va. Pour moi, le problème, c'est que trop longtemps, on a voulu réformer uniquement en coupant des budgets, mais sans vision.
Sans vision.
Et sans vision, c'est insupportable. Ouais. Parce qu'on perd sur les deux côtés. On ne transforme rien. L'impact sociétal est de plus en plus faible et en plus on perd des emplois. Et ça, c'est pas acceptable politiquement.
Pour terminer, on l'y trouvait. Pour vous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle aussi des aides sociales, etc., en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas maintenant? puisque si on fait des économies partout,
c'est-à-dire que... Mais justement, en parlant des aides sociales, donc Emmanuel Macron dit, il y a un pognon de dingue dans les aides sociales, mais moi j'ai envie de vous dire, il y a un pognon de dingue qui continue à partir dans les paradis fiscaux et judiciaires, qui de plus en plus finissent dans les poches des actionnaires, hein, quand on regarde la valeur ajoutée produite, une part de plus en plus grande part vers les actionnaires et de moins en moins grande vers les salariés et le travail, ça c'est des réalités économiques depuis 20 ans.
Juste une chose, est-ce que donc, c'est aussi simple que ça? Ça veut dire que si on rapatrie toutes ces fortunes, est-ce que tout est réglé? Voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Ben, ça, je vous assure qu'au niveau des recettes, d'avoir une politique efficace, une vraie volonté politique de lutter notamment contre l'évasion fiscale, ça changera énormément la donne sur les finances publiques. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord, le problème, c'est à qui on rembourse. Et donc, il faut de mon point de vue, et là, c'est le problème de la zone euro, avoir des institutions publiques, une banque centrale, une caisse des dépôts, d'ailleurs, qui est en train d'être privatisée, qui puisse jouer un vrai rôle pour drainer l'épargne et faire en sorte que notre dette appartienne beaucoup moins au marché financier étranger et beaucoup plus à l'épargne domestique.
On aura l'occasion bien sûr d'y revenir dessus parce que c'est quand même un des grands sujets de notre époque. Allez, si vous vous ennuyez dans une soirée et que vous voulez encore plomber l'ambiance, hein, parce qu'il faut bien s'occuper, n'hésitez pas à lancer à la cantonade tiens au fait qui connaît les 75 personnes inhumées au Panthéon. Hein, oui, c'est lourd, hein, mais il y a de fortes chances pour que très peu de gens évoquent les noms de Jean-Louis Ebenezer Régnier ou Jean-Ignace Jacqueminot, voilà, respectivement caveau 2 et caveau 4 du Panthéon. Parce que oui, la notoriété était bien fragile et a du mal à passer le nombre des années parmi ces personnalités dont la patrie est reconnaissante. Seulement 4 femmes, une 5e les rejoindra dimanche, à savoir Simone Veil, décédée il y a près d'un an. Simone Veil fera son entrée dans le temple républicain. À travers elle, c'est une vie de combat, de douleur et de triomphe dont les secousses se font encore ressentir aujourd'hui dans la société française. Donc difficile de ne pas céder à l'image, selon la rabbin Delphine Horviller.
Je crois qu'on a bien des raisons de lui dire merci. Moi, j'ai l'impression qu'elle a été pour moi un pilier de construction, comme pour beaucoup de gens de nos générations, qu'elle a représenté ce combat pour les femmes, et puis ce combat pour la mémoire, et puis ce combat pour tout simplement transformer son histoire, incarner quelque chose de l'ordre de la résilience, un modèle qui parle à beaucoup de gens aujourd'hui.
Voilà, Delphine Horviller, rabbin. Alors, Éric Scholl, juste une question avant. Est-ce que, d'après vous, panthéoniser, ça a toujours de la valeur ou c'est un réflexe d'une autre époque, finalement, aujourd'hui, en 2018?
Non, je crois que ça a de la valeur. Moi, je pense qu'au fond, c'est une interrogation à un moment d'un pays sur, justement, la valeur. Quelles sont les valeurs que l'on donne, qu'incarnent ces personnes que l'on panthéonise? Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant comme valeur? Et en l'occurrence, avec Simone Veil, on voit bien ces valeurs, que ça soit à la fois l'Europe, que ça soit évidemment le combat pour les femmes, mais aussi, bien sûr, la survivante des camps, donc cette résistance finalement. Et c'est ça, c'est ces valeurs-là, à un moment, je pense que c'est cette idée-là, au-delà des noms des gens qui sont dedans, c'est qu'est-ce qu'un pays a comme valeur à mettre en avant, et c'est très important.
Alors on va parler de Simone Veil dans un instant, mais Étienne Girard, c'est vrai qu'il y a un côté politique aussi, hein, chaque panthéonisation. J'ai noté, c'était une coutume très présente, en fait, depuis François Mitterrand. François Hollande en a fait rentrer 4 d'un coup. Par contre, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, personne. De Gaulle, Jean Moulin. Ça montre quelque chose du président?
Évidemment, c'est une évidence de le dire, mais le choix des personnes qu'on propose au Panthéon est instrumentalisé par les présidents de la République et ça leur permet d'inscrire leur action politique dans un récit national et dans une histoire plus globale. En proposant Simone Veil au Panthéon, sans doute que chaque président de la République l'aurait fait, parce que ça paraît...
Personnalité tellement forte, en effet.
Voilà, ça paraît une évidence. Mais Emmanuel Macron, tout de même, en proposant une personnalité qui incarne un féminisme, par exemple, il répare un peu la promesse manquée de nommer comme première ministre une femme, de nommer comme président de l'Assemblée une femme. Voilà. Donc, il adresse tout de même un clin d'œil en choisissant Simone Veil à cette place-là. Mais ça ne veut pas dire que d'autres présidents ne l'auraient pas fait. Ouais. Il l'aurait sans doute fait.
Et puis qui fait aussi une personnalité qui fait assez l'unanimité dans la société. Hein, Allez, on continue à en parler. Dans un instant, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Et le Rhône est placé en vigilance orange canicule. Météo France attend des températures voisines de 17 degrés la nuit en région lyonnaise ce week-end. Le mercure pourra surtout atteindre les 34 degrés en journée. Il fera très chaud également sur les autres régions françaises ces deux prochains jours, jusqu'à 37 degrés. 3 hommes et 2 femmes sont les victimes de la fusillade d'Annapolis hier aux États-Unis. 2 blessés également dans la rédaction du Capitol Gazette. Donald Trump souligne aujourd'hui que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans peur. Le tireur reste interrogé. Il entretenait des relations conflictuelles avec ce quotidien local du Maryland. C'était un attentat, l'attaque du quartier général de la force G5 Sahel dans le centre du Mali à Sévar. Les militaires parlent d'au moins un kamikaze. Le bilan est ce soir de 6 morts. C'est la première attaque visant cette structure militaire, unité de 5 États africains pour lutter contre le djihadisme. Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 7,45% en moyenne au 1er juillet. Les tarifs appliqués par Engie au moins à 5 millions de clients. Une annonce ce soir du ministère de la Transition écologique. Cette augmentation reflète une hausse des cours du marché. Et puis du bleu, du blanc et du rouge en Russie dès l'aéroport. Près de 4000 Français sont attendus au stade de Kazan en Russie pour le 8e de finale France-Argentine au mondial de foot. En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps estime que demain ça passe ou ça casse. Il n'y a plus le choix.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, dimanche, Simone Veil, accompagnée de son époux, eh bien, fera son entrée au Panthéon près d'un an après sa disparition. Elle est décédée le 30 juin dernier. Vous y trouvez, c'est vrai qu'il y a un an, il y a eu beaucoup d'émotions dans le pays. C'est-à-dire que Simone Veil était toujours présente dans la mémoire des Français. Pour vous, au Panthéon, c'est sa place là.
Oui.
Ça représente quelque chose pour vous,
oui,
le Panthéon,
mais, alors, ou pas bah, moi, ce que je trouve important, c'est pas tellement de se souvenir, de consacrer des individus, mais quelque part, les combats collectifs, les actes collectifs qui les ont accompagnés, qui marquent l'histoire de la France et de son progrès social. Et de ce point de vue-là, Simone Veil, c'est pas que Simone Veil, c'est aussi tous les mouvements féministes qui ont permis à un moment donné de promulguer une loi pour permettre l'avortement. C'est aussi le manifeste des 343 salopes. C'est aussi ces médecins qui ont pratiqué l'avortement publiquement. Derrière, c'est des mouvements très puissants. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, surtout à rappeler. Et puis vous dites aussi, du coup, c'est un acte politique pour un président de la République. Moi, je trouve aussi que ça permet de s'interroger sur Emmanuel Macron, son gouvernement, et ce qu'il fait du point de vue de l'égalité femmes-hommes. Il faut quand même rappeler que, par exemple, dans quelques mois, est prévue une réforme des retraites à points qui risque de s'attaquer énormément, en particulier au niveau des retraites des femmes. Et voilà, par exemple, je trouve important que l'histoire fasse porter un regard critique aussi sur ce qui est en train
écho,
de se passer.
C'est un écho avec ce qui se passe en 2018, Éric Scholl.
Oui, il y a aussi évidemment les valeurs européennes qu'elle incarne. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Il y a évidemment le combat pour les femmes, mais c'est aussi une européenne. Moi, j'ai eu l'occasion un jour de discuter avec Antoine Veil, avec son mari, sur les rapports franco-allemands. C'était il y a quelques années, c'était en 2010, un moment où justement, on critiquait beaucoup l'Allemagne. Il était extrêmement triste de cette façon dont on mettait en cause aujourd'hui l'Allemagne. Et on voit bien, et lui-même, les deux ont participé à la réconciliation franco-allemande de façon très forte. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ce message. Et c'est ce message-là aussi qu'il donne sur la réunification de l'Europe, sur les valeurs de l'Europe.
Et ce matin, les fils de Simone Veil ont dit que ça aurait été terrible pour elle qu'elle assiste aussi à l'enterrement de l'Europe, qu'on en a peut-être failli assister avec le Conseil européen. Guillaume Clossat, vous, dans le cadre de vos activités européennes, justement, vous avez croisé Simone Veil?
J'ai même un lien familial avec Simone Veil, donc pour moi c'est quelque chose de très fort. Et d'abord, pour elle, l'Europe c'est aussi la démocratie européenne. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen, et elle a incarné avec solennité, mais aussi avec une perspective historique, la fonction. Et elle lui a vraiment donné un sens de voter au suffrage universel pour choisir son député européen. On a des élections dans un an. Elle avait, il y a deux combats qu'on a essayé de mener ensemble. D'une part, le combat pour la Constitution européenne, parce qu'il y croyait, et elle croyait que cette Constitution était importante, parce que le mot Constitution permettait de projeter les citoyens dans une perspective commune, et elle s'est engagée, c'est moi qui suis allé la chercher, elle s'est engagée au dernier moment dans la campagne, et elle dit ce débat m'a tellement frustré et je suis enfin contente de pouvoir parler. Elle était membre du Conseil constitutionnel et elle avait demandé et puis un deuxième combat, et là c'est un appel à Emmanuel Macron auquel elle croyait énormément, c'est de faire du 9 mai un jour férié. Parce que c'est la fête de l'Europe, c'est pas vraiment célébré. Qu'il soit un jour à la fois de la réconciliation et de la renaissance européenne. Et elle s'est battue, elle a essayé de convaincre Sarkozy pendant la présidence française de l'Union européenne. C'était son dernier combat politique, elle l'a pas gagné. Peut-être qu'avec un président très européen comme Macron, elle sera entendue.
Étienne Girard, c'est vrai que on parle en effet de l'histoire quand on parle de Simone Veil, mais c'était aussi une femme politique, hein, faut pas l'oublier, qui a été donc était à la fin plus proche de Nicolas Sarkozy que de Jacques Chirac, on se souvient de ça. Donc il y a quand même aussi plein de contradictions politiquement, parce que on sait bien qu'elle s'est battue, mais que c'était en fait c'était devenu un symbole plus qu'un poids politique, hein, Simone
Veil. Non, mais bien sûr que c'était une femme politique, Simone Veil, mais elle est pas panthéonisée en tant que bien femme sûr, politique, elle sûr. Est panthéonisée en tant que femme d'État et une femme qui a fait et qui a fait de la politique une loi. C'est-à-dire que ses idées politiques, c'est pas que des discours, ça s'est matérialisé dans une loi promulguée en 1975 et ça a concrètement changé la vie de millions de Françaises. Voilà, c'est en ça qu'elle a une légitimité particulière pour entrer au Panthéon, pas en tant que femme politique, dont on ne partage pas forcément toutes les positions.
Loi, loi pour laquelle elle avait été, à l'époque, elle avait été détestée par une très grande partie de l'opinion. Il y avait une haine contre elle qui était terrible.
Et des mots
d'une partie de la droite de son camp politique, d'ailleurs.
D'une violence très forte. Et finalement, il y a eu un consensus sur sa personnalité. Et donc, c'est un retournement de l'histoire qui est aussi salué à cette occasion.
Cette voix se termine, les informés de France Info. Bien sûr, c'est une cérémonie que vous pourrez suivre en direct, hein, dimanche sur France Info. Merci beaucoup, Henri Trouet, d'être passé ce soir aux informés. Merci, Guillaume Closa. Éric Chaud, la une de Courrier International cette semaine.
Pour tous ceux qui sont un peu énervés de rouler à 80 km/h, je leur conseille ciao la voiture. Et on s'interroge sur est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans voiture. C'est assez compliqué.
Étienne Girard, la une de Marianne.
Eh bien, Simone Veil, justement, comment elle a changé la vie des femmes, on interroge certaines de ses héritières.
Ses héritières. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir. Bonsoir, pour toutes les politiques au programme ce soir.
Nous allons poursuivre cet hommage à Simone Veil. Nous évoquerons évidemment l'accord européen sur les migrants et nous reparlerons également de la limitation à 80 km/h avec Florence Berthoud des Républicains, avec Jacques Maire de La République En Marche, Yann Brossa du Parti communiste français et Jocelyne Sauvard qui a signé une biographie sur Madame Simone Veil.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.